Musicopolis. Monteverdi, Mantoue, 1607. En février 1607, la cour de Mantoue est en pleine effervescence. Le maître de chapelle, Claudio Monteverdi, est en train de faire répéter un spectacle d'un tout nouveau genre. L'événement est très attendu par le public restreint qui va y assister, la famille ducale et les membres de l'Académie des Invaghetti, une association mantouane d'érudits et d'amateurs de musique. L'un de ses membres écrit le 23 février, en pleine festivité du carnaval, à un correspondant. « Hier, on a représenté une comédie sur la scène de notre théâtre avec la splendeur coutumière. Demain soir, Son Altesse Sérénissime le Prince en fera réciter une autre dans une salle des appartements de Son Altesse Sérénissime Madame de Ferrare, sœur du Grand-Duc. Ce spectacle sera inhabituel puisque les acteurs diront leur partie en musique. On pense que ce sera un grand succès. Nul doute que ma curiosité m'incite à y assister. » À moins que je n'y sois empêché par l'exiguïté de la salle. C'est le prince Francesco, fils aîné du duc de Mantoue, qui a décidé de faire représenter une fable en musique pour le carnaval 1607. Quelques années plus tôt, à l'automne 1600, à l'occasion du mariage de Marie de Médicis et d'Henri IV, quelques privilégiés avaient pu assister à la cour de Toscane à Florence à la représentation du premier opéra Eurydice. Un texte du poète Ottavio Rinuccini avec une musique de Jacopo Peri. Vincenzo Gonzague était invité à la fête et il avait amené avec lui son meilleur musicien, Claudio Monteverdi. Claudio suit depuis longtemps toutes les discussions qui réunissent hommes de lettres et musiciens pour retrouver la déclamation du théâtre grec antique. Il a été très impressionné par cette nouvelle forme lyrique et en même temps il est resté sur sa faim. Il pense qu'on peut aller plus loin dans l'expression des sentiments. Pour la fable en musique que commande Francesco Gonzague pour le carnaval, le choix du sujet se porte sur le mythe d'Orphée. On ne peut plus proche de l'Eurydice de Peri donné à Florence en 1600. Mais justement, ces représentations ne sont pas seulement affaires de grand art, ce sont aussi des manifestations de puissance. Si le prince veut épater la galerie, c'est encore mieux si son opéra à lui dépasse l'Eurydice des Médicis sur le même terrain. Et cela d'autant plus qu'il veut faire impression sur la famille de Savoie, à laquelle il va bientôt s'allier en épousant la princesse Marguerite. Il sait qu'il dispose à Mantoue de créateurs aptes à relever ce défi. Monteverdi a déjà écrit quelques intermèdes pour des spectacles, dont la musique est malheureusement perdue, et sa réputation est grande grâce à la publication de ses 5 premiers livres de madrigaux. Pour le texte, c'est Alessandro Strigio, membre de l'Académie des Invaghetti, que préside Francesco, qui est appelé.
Prole di lui e l'universo circondi e il tutto miri, dagli stellanti giri, dimmi, vedesti tu mai di me più lieto e fortunato amante? Fu ben felice il giorno mio ben che pria ti vidi, e più felice l'ora che per te sospirai, poi ch'al mio sospirar tu sospirasti. Felicissimo è il punto che la candida mano regno di pura fede a me. Tanti cori avessi quant'occhi al cielo eterno e quante chiome an questi colli aveni il verde maggio, tutti colmi sarino e traboccanti di quel piacer che oggi mi fa con te.
Le même jour où un membre de l'Académie des Invaghiti annonce à Mantoue un spectacle inhabituel où les acteurs diront leur partie en musique, le prince Francesco, commanditaire de l'œuvre, écrit à son frère Ferdinando, qui se trouve en Toscane et qui a été chargé de lui envoyer un castrat, Gualberto, pour tenir plusieurs rôles. Je le cite. « Demain, la fable en musique sera représentée dans notre Académie, puisque Giovanni Gualberto a travaillé fort bien depuis qu'il est là. » Non seulement il a appris par cœur sa partie, mais aussi il la chante avec grâce et beaucoup d'effet. J'en suis moi-même très satisfait. Le texte de la fable a été imprimé de sorte que chaque spectateur puisse en suivre le déroulement. J'en envoie une copie à votre Excellence. Plus tard, je vous préviendrai par le biais d'un autre message du tournoi qui devrait se tenir le jour de carnaval. Enfin, le grand jour du 24 février, création d'Orfeo, est passé. Tout s'est bien déroulé devant le public des Invaghiti, un public masculin, puisque les académies ne sont pas ouvertes aux femmes, hormis quelques dames du palais. Mais justement, le duc Vincenzo de Mantoue veut les faire toutes profiter du spectacle. Quatre jours plus tard, le 1er mars, Francesco, le commanditaire de l'ouvrage, rend compte à son frère Ferdinando. La fable a été représentée pour le plus grand plaisir de chacun des spectateurs, si bien que Monseigneur le Duc, qui y assistait, comme il a assisté à plusieurs répétitions, a ordonné qu'on la représente de nouveau. Il en sera ainsi fait aujourd'hui, en la présence de toutes les dames de la ville. Pour cette raison, Giovanni Gualberto, le castrat prêté par le Grand-Duc de Toscane, prolonge son séjour ici. Il a très bien interprété sa partie et il a réjoui par sa manière de chanter tous les spectateurs, spécialement Madame. Donner un opéra en 1607 est bien sûr une nouveauté, même si de nombreux spectacles ont déjà eu lieu par le passé avec de longs passages chantés. Et pourtant, il est bien probable que les spectateurs du 24 février 1607 n'ont pas conscience d'assister à la naissance d'un nouveau genre. Un genre qui, pour sa première fois, a déjà porté à la perfection tout ce qui fera son succès. Avec la diversité de ses éléments, l'action, les airs, les chœurs, la danse et bien sûr l'émotion. Dans ce premier essai d'opéra, Monteverdi a pu essayer de nombreux effets sonores grâce à l'orchestre de la cour de Mantoue, un orchestre qui peut se diviser pour spatialiser la musique, avec deux clavecins, deux contrebasses de viol, 10 instruments de la famille des violons, une harpe double, deux petits violons à la française, deux chitarrones, des grands luths, deux orgues positifs plus un orgue régal avec un son très nasal, 3 basses de viol, 4 trombones, 2 cornets à bouquin, une petite flûte, 4 trompettes naturelles dont 3 avec sourdine. Il y a à l'époque une typologie des instruments. On va accompagner les bergers du son des flûtes, tandis que les cornets et trombones évoqueront les enfers et les cordes pincées, l'harmonie des sphères. Dans l'Orfeo, Monteverdi raffine encore ses distinctions et il change le coloris instrumental pour chaque nuance infime du texte. Thank you. après une deuxième représentation de l'Orfeo le 1er mars, une troisième va avoir lieu, ce que nous apprenons par une lettre de Francesco au grand-duc de Toscane, datée du 8 mars 1607. J'ai employé Giovanni Gualberto avec grande satisfaction, et il serait temps de vous le renvoyer. Mais mon maître, le duc, fait représenter de nouveau la fable dans laquelle il a chanté. Ainsi, confiant dans votre inaliénable courtoisie, j'ai pris la liberté de le retenir pendant quelques jours. Enfin, le 30 avril, dernière lettre de Francesco au grand-duc. Je prie votre Altesse de me pardonner si j'ai abusé de votre courtoisie en retenant aussi longtemps votre serviteur Giovanni Gualberto. Je l'ai fait en vertu seulement de la confiance que j'ai en votre indicible bonté, que je sais supérieure à mon propre désir de vous servir. Il fait maintenant retour auprès de votre Altesse après m'avoir comblé de satisfaction. Je vous suis infiniment obligée et vous remercie comme il se doit. » Fin de citation. Si Gualberto a été une sorte de star dans cette production, c'est tout de même le rôle d'Orfeo qui est le plus long et le plus étoffé. Il est tenu à la création par un chanteur de Mantoue, le ténor virtuose Francesco Razzi, très au courant des derniers développements de l'art du chant soliste. Après la création de l'Orfeo, Monteverdi poursuit son quotidien musical à la cour de Mantoue. Concerts, ballets, tournois. Pendant l'été, le duc emmène sa cour à San Pier d'Arena, au bord de la mer près de Gênes, loin des chaleurs pesantes de Mantoue. Claudio en profite pour se rendre chez son père à Crémone, avec sa femme et ses enfants. Claudio est très épuisé par son année de travail et Claudia, sa femme, est malade. Le 21 juillet paraît à Venise le volume des Scherzi Musicali, badinerie musicale, préfacé par son frère Giulio Cesare, avec la réponse aux attaques du théoricien Artusi. C'est dans cette préface que sont exposées les idées de Monteverdi sur la première et la seconde pratique. C'est là qu'il affirme que dans la seconde pratique, la parole doit être la maîtresse de la musique.
Lasciatemi
Même si Monteverdi pense se reposer à Crémone, le duc continue à lui passer des commandes, notamment de deux sonnets à mettre en musique. Le 10 août, il est reçu par l'Académie des Animosi à Crémone, qui lui font un accueil vibrant. Il part ensuite pour quelques jours à Milan. Le 22 août, le chanoine Cherubino Ferrari, qui est un genre d'impresario, écrit au duc Vincenzo. Monteverdi se trouve à Milan et loge chez moi. Chaque jour, nous parlons de votre Altesse et rivalisons en louanges pour célébrer vos qualités, votre courage et vos manières royales. Il m'a montré les vers et fait entendre la musique de la fable que votre Altesse a fait représenter. Tant le poète que le musicien ont si bien dépeint les passions de l'âme qu'il n'est pas possible de faire mieux. La poésie est belle dans son invention, encore plus belle dans sa disposition, excellente dans l'élocution. Mais on ne pouvait s'attendre à moins d'un bel esprit comme M. Strigio. Quant à la musique, tout en respectant ses convenances, elle sert si bien la poésie qu'on ne pourrait en entendre de meilleure. Le séjour de Monteverdi à Milan en août 1607 est très bref. Il rentre à Crémone pour trouver son épouse Claudia au plus mal. Elle meurt le 10 septembre. La fatigue et le chagrin se mêlent. Monteverdi traverse un épisode de dépression et il demande son congé de Mantoue. Son père lui aussi prend la plume pour expliquer que Claudio est malade et que le climat de Mantoue ne lui vaut rien. Mais rien n'y fait. Le duc ne veut rien savoir. Et il commande déjà à son musicien un nouvel opéra qui doit être donné pour le mariage de son fils Francesco. Dès le mois d'octobre, Claudio est donc au travail sur Arianna, qu'il terminera dans les premiers jours de janvier 1608. Seul le fameux Lamento, chanté par Arianna, a été conservé. Et nul doute que l'expression tragique d'Ariane, abandonnée par Thésée, et qui réclame qu'on la laisse seulement mourir, est un témoin fidèle de l'état d'esprit de Monteverdi après la mort de Claudia. Thank you. Lasciatemi morire, le lamento d'Arianna de Claudio Monteverdi, Véronique Gens, soprano, avec le concert d'Astrée dirigé par Emmanuel Haïm. Tout le programme, la réécoute et le podcast de toute la série Monteverdi sont à présent sur francemusique.fr sur la page Musicopolis. Notre grande petite équipe était composée aujourd'hui de Jean-Michel Bernaud pour le mixage, Françoise Monteil pour les recherches et le site, et Béatrice Trichet pour la réalisation.